Hier, le CF Montréal affrontait l'équipe championne en titre de la MLS, le Crew de Columbus. Le match s'est terminé 0-0. L'équipe montréalaise est toujours invaincue en 3 sorties. C'est une première d'ailleurs depuis 2012. Donc, somme toute, un excellent début de saison. Vandril Lefebvre est avec nous. Salut Vandril.
Salut Evelyne.
Je pense que tu vas être d'accord avec moi sur cette première affirmation. Sur papier, annulé contre Columbus, c'est excellent. Mais compte tenu du match qu'on a vu où Montréal a été l'équipe dominante sur le terrain, le Crew d'ailleurs a eu sa première chance de marquer à la 69e minute. Le fait que Montréal n'ait pas réussi à concrétiser, à mes yeux, c'est pas une nulle qui est satisfaisante. Es-tu d'accord?
Non. Écoute, c'est un assez bon résumé de ce qu'il faut retenir d'une certaine manière si on n'a pas vu le match et qu'on veut se faire une idée. Parce que, effectivement, sur papier, le groupe Columbus, équipe championne en titre, quelques vedettes capables de faire la différence à n'importe quel moment d'un match, ça paraissait assez difficile. Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai vu en peut-être un an et demi de la part du club de foot Montréal hier. Dans le contenu, je parle. Alors évidemment, il a manqué, on le sait, l'efficacité pour être capable d'aller chercher ces 3 points-là. Mais de bout en bout, ce match a été vraiment bien maîtrisé. De belles séquences de possession, des beaux moments en transition. C'était vraiment très agréable à regarder, puis à faire une idée de à quoi peut ressembler cette identité de jeu.
Les statistiques du match parlent énormément. La possession du ballon, c'était 50-50 à la mi-temps, puis ça a fini 56-44. Donc, c'est quand même pas si pire. Mais les tirs au but, 20 en faveur de Montréal, 3 en faveur de Columbus, c'est quand même un écart immense. Et par contre, sur les 20 tirs de Montréal, seulement 3 de cadrés. Alors là, de toute évidence, il faut terminer les actions. Il faut plus de créativité dans le tiers offensif. Mais concrètement, Nancy, qu'est-ce qu'il peut faire pour changer ça?
Pas grand-chose, parce que pour moi, à ce stade... Non, mais c'est une réponse très transparente et très honnête. Pourquoi? Parce que je pense que rendu là, dans la philosophie de jeu que veut inculquer Wilfried Nancy, hein, sachant un petit peu la filiation Thierry Henry, qui est aussi une filiation Guardiola, si on rentre un petit peu dans l'histoire de ce qu'est le foot des dernières années, le tiers offensif, c'est la liberté des joueurs. On fait tout ce qu'il faut d'un point de vue schéma tactique et dispositif pour s'assurer d'amener le ballon proprement dans ce dernier tiers. Puis après, c'est la liberté des joueurs qui ont ce pouvoir de création de faire la différence. Hier, c'est ce qu'il a manqué un petit peu, c'est-à-dire de la création qui s'est transformée en efficacité. Mais pour moi, ça relève des joueurs et pas du coaching staff.
Ah ouais, OK, c'est intéressant. J'ai jamais entendu ça, mais ça a de l'allure aussi. Donc, les joueurs, ils doivent faire quoi? Est-ce que c'est juste de la cohésion? Est-ce qu'il faut qu'ils aillent boire une bière après les matchs? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour ça?
Non, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a un problème non plus. T'sais, des fois, il y a des matchs où les choses sont capables de te sourire, d'autres fois non. Hier, d'un point de vue efficacité, elles ne t'ont pas souri. Mais pourtant, tout était là. Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue idée, les joueurs avaient de bonnes idées. Les séquences qu'ils ont essayées, les séquences de combinaisons qu'ils ont essayé de mettre en œuvre pour déstabiliser la défense de Columbus, a fonctionné à chaque fois à 90-95%. Ce qui a manqué, c'est le dernier geste, c'est-à-dire doser la bonne passe au bon moment, la faire dans le bon intervalle, frapper au moment où il faut frapper, non pas prendre une touche supplémentaire. C'est plus des décisions ponctuelles d'instantané que des schémas dans lesquels faut travailler, d'après moi.
Bjørn Jensen, par contre, lui, il m'apparaît une bonne solution à l'attaque. C'est un géant. Il est quoi? Il est 6 pieds 5, ce gars-là? Je pense que c'est quelqu'un quand même qu'on pourrait atteindre facilement avec les centres. Il me semble que ça dynamise, ça offre un peu plus de créativité. Est-ce que tu penses qu'il peut être une solution?
Absolument, mais ça, c'est ce qu'on aime de l'effectif du club de foot Montréal cette année, c'est la capacité à mettre à des positions similaires des joueurs qui ont des compétences, je dirais, des caractéristiques différentes. Et ça, c'est lié à quoi? Ce qu'on veut faire, soit en prévision d'un match, soit même à l'intérieur d'un match. Hier, ce qu'on a vu d'intéressant de la part de Wilfried Nancy, qui est celui qui prend la décision, c'est que en cours de match, en raison de la physionomie du match et de l'assise qu'il prenait plus le match avançait, il a changé un petit peu l'allure de ce qu'était son attaque. Il a vu qu'ils étaient capables de passer par les côtés et que donc il y avait une quantité industrielle d'une certaine manière de centre qui pouvait arriver. Et dans la surface, on avait Romel Thiotto et Eric Hurtado. C'est pas nécessairement des profils capables d'être, je dirais, dangereux sur ces phases-là. Alors qu'un Bjørn Jensen, de par son physique, lui est plus à même de provoquer le danger. On l'a amené, non pas pour changer la configuration, pour profiter de la configuration du match. Et c'est là où je trouve que, encore une fois, le QI foot de Wilfried Nancy, au moment où il prend cette décision, il est exceptionnel.
Est-ce que t'es... Oui, ben je veux parler justement de la gestion des effectifs de Wilfried Nancy, qui, je pense un peu comme toi, je pense qu'il en prend des bonnes. Je t'avoue qu'hier, il y en a une qui m'a étonnée, par contre, Samuel Piette. Il n'a pas été à 100% la semaine dernière. C'est vrai que sa cohésion avec Mihailovic était un petit peu moins évidente, mais de là à pas être utilisé du tout hier, même pas une minute, ça m'a étonnée. Puis d'ailleurs, Piette, c'était son 95e match MLS en carrière, première fois que ça lui arrivait.
Écoute, je vais pas te mentir, ça m'a surpris moi aussi. Et après, quand j'ai vu l'allure que prenait le match, le choix de Wilfried m'est apparu extrêmement pertinent et extrêmement logique. Pourquoi? Quand on regarde un petit peu ce qu'a fait la force du club de foot Montréal hier, c'est sa capacité à vite sortir le ballon de ses pieds et à faire des transitions rapides, de plutôt nord-sud que de gauche à droite. Samuel, son point fort, lui, c'est quoi? C'est la récupération du ballon, puis être capable de sécuriser ce ballon un peu plus latéralement que nord-sud. Hier, il y avait moins besoin de ça. Je pense qu'à partir du moment où on a pris la décision de ne pas le faire commencer, le seul cas de figure où Samuel, de par ses caractéristiques, pouvait entrer dans ce match, c'est si on avait pris les devants et qu'on voulait sécuriser ce match. Je pense que tant et aussi longtemps qu'on n'avait pas pris les devants et que Samuel ne faisait pas partie du 11 partant, il était logique de ne pas le voir entrer non plus.
Moi, ce que j'ai aimé, par exemple, c'est que ça a donné un peu, ça a mis la lumière sur d'autres joueurs. Par exemple, pour remplacer Piette, Nancy, il a opté pour amasser Ditch. Lui, il joue plus offensif que Piette, alors ça allait donner beaucoup de responsabilités à Wanyama, qui affrontait en plus Zelarayan, qui joue en numéro 10 pour le Crew. Et finalement, on n'a presque pas vu Zelarayan du match. Hein? Wanyama a fait un super bon travail, donc Wanyama s'est bien levé en l'absence de Piette.
Absolument. Puis il y a aussi une autre configuration. C'est un petit peu cliché, Evelyne, mais quelle est la première solution quand on veut bien défendre? Ben, c'est s'assurer de ne pas donner le ballon à l'adversaire, ou du moins le moins possible. Et ce dont on s'est assuré hier, c'est d'approvisionner le plus efficacement possible des joueurs comme Mihailovic et Fedic, et à l'inverse, ce faisant, obliger Zelarayan et les joueurs de ce type à courir derrière le ballon et non pas en profiter. C'est une manière de défendre sans défendre. Et après, oui, je suis d'accord avec toi, dans un second temps, les fois où Zelarayan a été capable d'avoir le ballon, ben on a vu un Victor Wanyama qui a sorti son match en solo, c'est-à-dire sa responsabilité défensive. Et à ce niveau-là, on ne peut pas dire qu'il n'a pas livré la marchandise.
As-tu des nouvelles de Mason Toy? Pour nous, il était là au dernier match et puis là, tout à coup, il était absent hier. Il semble blessé à la cuisse. Ça s'est produit quand, ça, à l'entraînement cette semaine?
Écoute, c'est pas impossible. Les camps d'entraînement, je n'ai jamais vu des camps d'entraînement et des débuts de saison suivant les camps d'entraînement sans blessure. C'est quasi le prix à payer d'une préparation physique qui te permet de tenir toute une saison. Il sait qu'il y en a qui perdent des plumes parfois. On sait aussi, puis là, moi, j'en sais rien, ce n'est qu'une hypothèse, mais cette semaine, on a entendu dire qu'il y avait eu, suite à la deuxième dose de vaccin, certains joueurs qui avaient peut-être eu quelques effets secondaires. J'imagine rien de bien majeur, mais qui peut-être en prévision et en préparation d'un match important peuvent fragiliser le physique d'un joueur au moment où il doit livrer une telle performance. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? On n'en sait trop rien, mais j'imagine rien de majeur de son côté en tous les cas.
Dernière chose, dernier point sur lequel je veux t'amener aussi, c'est qu'au premier match, là, Wilfried Nancy, il avait mis sur son 11 partant Joel Waterman comme défenseur droit. Samedi dernier, il a opté pour Elias Struna. Ça n'a pas été super concluant non plus. Struna s'est quand même fait déborder souvent. Il était à l'origine de plusieurs percées de Nashville dans son territoire, mais Nancy est quand même revenu avec Struna sur son 11 partant hier. Ça a été moins pire, je trouvais, mais on dirait quand même qu'il jongle avec deux mauvais choix là, à cette position-là. Est-ce que en arrière à droite, ça serait la principale faille de l'équipe présentement?
Écoute, il y a aussi une composante dans laquelle on n'a pas parlé et qui s'inscrit dans le schéma que tu soulèves en ce moment, c'est l'absence de Louis Binks.
Oui.
Quid de quand Louis Binks reviendra dans cet alignement? Qu'est-ce qu'on fera? Là, on aura, il y aura vraiment un bouchon au niveau de la position de défenseur central pour trois postes. Et il n'est pas impossible à ce moment-là que Rudy Camacho, qui à ce moment bien précis occupe le poste axial, lui décale du côté droit parce qu'il est droitier et on insère Louis Binks dans l'axe tel que c'était l'an dernier aux côtés de Kamal Miller et de Rudy Camacho. Ça, c'est une option. Dans les circonstances, mon point de vue, c'est que Kiki Struna apporte de meilleures garanties, sans être des garanties exceptionnelles, apporte de meilleures garanties que Joel Waterman, qui depuis un an nous a montré ses limites, je dirais, de mon point de vue, en tout cas, plus de fois qu'autrement. C'est pas un mauvais joueur, mais c'est un joueur qui, face à la pression, a souvent été soit gaffeur avec le ballon, soit gaffeur sans le ballon. Et au premier match contre Toronto, même si ça n'a pas coûté la victoire, les deux buts lui incombent. Et forcément que quand on est coach, dans un début de saison, on cherche des garanties.
Vandril, merci infiniment. Merci pour ton expertise. C'est toujours un plaisir de jaser soccer avec toi. Je te souhaite une bonne semaine.
Merci à vous aussi.
Salut, à bientôt. On se laisse pour 3 minutes au retour. On revient sur l'histoire du jeune Raphaël Lessard qui peine à trouver les fonds nécessaires pour poursuivre sa carrière dans le NASCAR, série des camionnettes. Avec nous, un gars qui a passé sa vie derrière un volant et qui connaît très bien cette business-là. On parle avec Patrick Carpentier. À tout de suite.